Je vous propose du coup de ce matin de continuer notre série et de la conclure ce matin sur les paraboles de Jésus. Voilà, on a entamé depuis le mois de juillet, durant cet été, une série de paraboles sur les paraboles de Jésus, ce qu'elles veulent nous dire. Et ce matin, je vous propose du coup de conclure. Alors voilà, c'est une parabole classique finalement, on termine par la parabole la plus classique, puisque Jésus, après avoir enseigné, fait toutes ces paraboles, il va donner un message qu'on va lire ce matin, un message assez particulier. Et un message que j'ai déjà fait ici, c'était ma première prédication quand je suis arrivé à Sauveur. Et alors j'ai parfait la même chose, vous inquiétez pas, hein, si c'est la même chose, ça vous fera du bien quand même. Mais je vous propose du coup de prier, puis que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole, Père. Que cette parole, mon Dieu, comme dit l'apôtre Jacques, qui produit la vie, puisse, mon Dieu, produire la vie en nous-mêmes. Qu'elle ne puisse pas rester du papier, des mots sur une page, mais que ces paroles, mon Dieu, qui sont ta parole, la parole de Dieu, puissent, mon Dieu, nous procurer la vie. Cette vie dont nous avons tant besoin. Viens ouvrir, mon Dieu, les oreilles de nos cœurs, que nous puissions, Jésus, avoir des cœurs d'enfants, pour que nous puissions pas seulement entendre, mais écouter, pour que tu puisses, Jésus, Saint-Esprit, agir au travers de nous. Amen. Je vous propose une histoire pour commencer. Nous sommes en 1951, en pleine guerre de Corée, entre du coup les communistes et les Coréens et les Américains. Et un Américain va monter à bord d'un navire militaire. Il porte une blouse blanche, un stéthoscope, et il a tout le vocabulaire médical parfait. Il se fait passer du coup pour un médecin de l'armée. Et un jour, un blessé grave, un soldat arrive avec une balle près du cœur. Et notre prétendu chirurgien, il va s'isoler 10 minutes dans sa cabine avec un manuel d'anatomie, un manuel de médecine. Il ressort, il opère et il va sauver le soldat. Et il fera comme ça plusieurs opérations réussies. Mais il y a un problème avec cet homme, c'est que cet homme, il n'avait jamais fait une seule journée d'études de médecine. C'était un imposteur et pourtant rien de l'extérieur ne le distinguait d'un vrai médecin, ni son titre, ni son langage, ni même ses résultats. Et ce matin, mes frères et sœurs, Jésus veut nous mettre en garde contre un risque bien plus grave que d'être un imposteur, de porter quelque part le nom de chrétien, dire Seigneur avec ferveur, venir à l'église, chanter des chants comme ce matin, louer Dieu, et découvrir peut-être au dernier jour, quand Jésus reviendra, que finalement, on n'a pas été de la partie, qu'on n'a été qu'une apparence, qu'on n'a été qu'une tromperie, qu'on s'est trompé déjà nous-mêmes, parce qu'on écoutait ses paroles sans jamais finalement lui obéir. Et je vous propose du coup d'ouvrir vos Bibles, il n'y aura pas de PowerPoint ce matin, d'ouvrir vos Bibles dans Matthieu, évangile de Matthieu, premier évangile, Matthieu chapitre 7. Et nous allons lire du coup des versets 21 à 27. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Donc Jésus, comme je disais tout à l'heure, on est à la fin du sermon sur la montagne, qui est toute la prêche, la prédication, les enseignements de Jésus. Et du coup, Jésus va conclure son enseignement comme cela. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Amen. Ce matin, comme il y a 2000 ans, Jésus, quand il conclut cet enseignement, il y a toute la foule qui est là, la foule qui l'a suivi pendant des semaines, voire des mois. Et Jésus, il conclut pas par une belle bénédiction. On pourrait s'attendre, allez, maintenant, allez-y. Il conclut par un avertissement. Quelque part, la question de Jésus, c'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous venez d'entendre, de tout ce que vous venez de voir? Et ce matin, la question, elle est tout aussi claire et pertinente pour nous, chrétiens de Saumur de 2026. Et c'est le titre de mon message, qui est une question, écouter Jésus sans lui obéir. Parce que c'est la thématique ici que Jésus aborde, et c'est mon premier point, les mots ne suffisent pas. C'est le verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Jésus ici, quand il s'adresse, il adresse ses paroles, il ne s'adresse pas à des athées, à des personnes qui sont en opposition, il ne s'adresse pas à des pharisiens. Il s'adresse à des gens qui l'ont suivi, pour différentes raisons là, ça après on peut détailler, mais qui l'ont suivi, qui ont entendu, à des gens fervents qui se sont exclamés « Seigneur, Seigneur », comme ce matin, on a chanté « Jésus, nous te proclamons roi ». On peut chanter, hein. Tout le monde peut chanter, tout le monde peut proclamer, tout le monde peut dire. Et pourtant, Jésus va leur dire « Ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Alors je vous pose une question. Est-ce que ça veut dire que Jésus est contre le fait qu'on le loue? Ou est-ce que le problème, c'est de dire « Seigneur » et du coup, il faut changer de terme? Peut-être qu'il est trop susceptible, Jésus, je ne sais pas. À votre avis, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est le mot « Seigneur » qui pose problème? Est-ce que du coup, ce matin, ça a posé problème, finalement? Parce qu'on l'a tous chanté. Ouais. Alors c'est intéressant ce que tu dis à Dominique, parce que dans ce texte, Jésus il parle à des gens qui disent Seigneur de tout leur cœur. Donc c'est pas tout à fait ça. Tout à fait, tout à fait. Le terme grec ici, d'ailleurs, il y a une répétition. En général, dans les versions grecques et hébraïques, quand il y a une répétition, c'est que les gens proclament des choses avec cœur, avec sincérité. Quand Jésus dit Seigneur, Seigneur, les gens qui disent, c'est pas ces gens qui font semblant. C'est pas des gens qui sont hypocrites. C'est des gens qui sont pour eux-mêmes, qui ont l'impression d'être sincères vis-à-vis de Dieu, qui louent avec leurs émotions, de tout leur cœur. Jésus, du coup, ne critique pas le fait, parce qu'on peut louer de tout notre cœur, comme on peut faire le mal de tout notre cœur. Ceux qui font le mal, ils pensent pas qu'ils font le mal en général. Hein. Ils sont sincères dans leur image, ils pensent qu'ils font le bien. Ici, Jésus, et Liliane l'a dit, le point qui choque, c'est finalement la mise en pratique. Ceux qui disent Seigneur, mais qui derrière ne mettent pas en pratique. Parce qu'on peut prononcer le nom de Jésus avec nos lèvres, tout en gardant le contrôle total de nos vies. Le problème, du coup, ce n'est pas le mot Seigneur, c'est l'absence de soumission derrière ce mot. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le mot Seigneur signifie? Parce qu'on dit Seigneur, mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire au moins? Un Seigneur, c'est celui qui dirige. Donc quand on dit Seigneur, quelque part, on proclame quelque chose par rapport à nous-mêmes, notre relation à Dieu. On dit, Seigneur, c'est quelque part, c'est toi qui dirige tout, y compris ma propre vie. Et pourtant, si on dit Seigneur, Seigneur, et qu'on continue à vivre comme si Jésus n'était pas Seigneur, on peut chanter du coup plein de beaux chants, prier plein de beaux chants dans notre vie quotidienne, de tout notre cœur, et passer à côté. Et cette phrase terrible, Jésus qui dit, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il va plus loin, je ne vous connais pas. Éloignez-vous, vous qui pratiquez le mal. Un exemple, imaginez, voilà, vous travaillez, vous avez sans doute un patron au-dessus de vous, que vous reconnaissez comme votre patron, mais quand celui-ci vous donne un ordre, qui est de travailler ou de faire un travail, imaginons que vous lui répondez « Non, je fais ce que je veux, mais je te reconnais comme patron. » À votre avis, ça va durer combien de temps cette histoire? Et vous pourrez lui dire, mais non, mais je reconnais vraiment que t'es mon patron de tout mon cœur. Mais je fais ce que je veux. Je peux vous garantir que ça dure pas très longtemps, ça. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est pas des mots, c'est les faits. Est-ce que dans les faits, tu fais ce que je dis? Tu travailles à mon service? Si pour le patron, c'est la même chose ici, pour le Seigneur, c'est exactement la même chose. On ne peut pas dire Seigneur et ne pas vivre sous la seigneurie du Christ. Pensez à un enfant. Alors ça, c'est un exemple qui m'est venu assez rapidement, parce que les miens, c'est un peu ça actuellement. Souvent, je demande à mes enfants, et en ce moment, c'est ça. Et c'est bien parce qu'ils apprennent un peu des fois, mais ils apprennent même des fois par la force, à ranger leur chambre. Les deux, Joanne comme Clémence, ils ont des bacs et ils savent ranger, sauf que souvent, ils ne rangent pas. Et quand je leur dis de ranger, à votre avis, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils ne me disent pas non, parce qu'ils savent que ça ne va pas bien se passer s'ils me disent non. Ils me disent oui, on va ranger. Oui, maman, oui, papa, je t'aime. Joanne, lui-même, il sort bien, il est malin, lui. Je t'aime beaucoup. Et il n'y a rien qui se passe. Il me regarde, il rigole, il court. Et ça n'a aucun sens. Ce qu'on attend, du coup, c'est ce qui va derrière. Est-ce qu'il a obéi? Jésus ne nous dit pas ce matin de nous contenter, quelque part, de l'appeler Seigneur avec notre bouche. Quelque part, il nous pose la question, est-ce que je dirige réellement votre vie? Alors attention, Jésus ne dit pas que nous gagnons notre salut en faisant suffisamment de bonnes actions. Le salut, c'est une grâce. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ, pas par nos performances. Mais une foi vivante, mes frères et sœurs, elle produit du fruit. Et elle produit une vie qui commence à changer. Du coup, ce n'est pas « j'obéis, donc Dieu m'aime », ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est « Dieu m'a aimé, et du coup, je veux lui obéir. Parce que je connais ce Dieu qui m'aime. Je sais que son joug, il est léger, qu'avec lui, je peux tout. » Il y a une histoire dans la Bible qui illustre un peu ce que Jésus dit ici, c'est le roi Saül. Le roi Saül, c'est un homme, et dans le livre de Samuel, c'est assez clair, qui va être rempli de l'Esprit de Dieu. Et au moment où il est rempli de l'Esprit de Dieu, le prophète Samuel va lui donner une mission. Dieu va lui donner une mission très claire, aller combattre un roi ennemi, et ne rien garder pour soi. Il doit tout détruire. Et Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désobéir. Il va garder les plus belles bêtes qu'il va trouver dans la ville. Il va surtout ne pas tuer le roi ennemi. Et quand le prophète Samuel va arriver, Saül va se justifier. Il va trouver une raison. Il va dire, c'est pour les offrir en sacrifice à Dieu. Il habille sa désobéissance avec une raison spirituelle. Parce que nous, chrétiens, on sait bien faire ça. Et qu'est-ce que Samuel répond? Est-ce que vous vous rappelez ce que Samuel répond à Saül? Est-ce que Samuel, il dit, « Ah, c'est très bien, il manquait des troupeaux pour faire un sacrifice, pour prier le Seigneur, donc tu as raison. » Qu'est-ce que répond Samuel? Un verset qu'on a du mal, hein. « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Mes frères et sœurs, ce matin, ton obéissance au Seigneur, elle vaut mieux que toutes tes prières du monde. Elle vaut mieux que ta vie spirituelle. Parce que, et je le répète, je l'aurais dit souvent, Jésus, notre Dieu, est un Dieu concret. Parce que l'amour est concret. L'amour, ce n'est pas théorique, c'est concret. Il se manifeste dans le concret de nos vies. Et ce que Jésus attend de nous, c'est de vivre ce qu'il est, Seigneur de nos vies. Et pour nous, c'est notre piège, d'être un peu comme le roi Saül, d'utiliser des excuses spirituelles pour ne pas obéir. Je sais que la Bible dit de pardonner, mais Seigneur, tu sais ce qu'il m'a fait quand même, non? Donc ça, quand même, hein. Tu es amour, allez, je ferai autre chose, je vais te servir à l'église, peut-être que tu seras mieux content si je fais ça plutôt que... Et autrement dit, quelquefois, en fait, on désobéit à Dieu et on justifie par une bonne raison spirituelle. Mais Dieu nous rappelle ce qu'il attend. C'est l'obéissance. C'est la droiture du cœur. Et Saül, lui aussi, nous montre quelque chose de très actuel. Nous pouvons parfois connaître la volonté de Dieu, désobéir, puis chercher une bonne raison pour expliquer pourquoi notre désobéissance est finalement acceptable. Saül, ici, c'est tout l'inverse du roi David. Le roi David, pourtant, en termes de gravité de péché, on va dire, de conséquences du péché, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qu'il fait? Quand le prophète Nathan va arriver, va lui dire « Toi, tu as trompé et tu as tué », il reconnaît sa faute. Pourtant, David, il savait aussi ce que Dieu attendait de lui. Et chuter, tomber, ça arrive. Mais ce que Dieu attend, c'est une authenticité dans l'obéissance. Quand on se reprend, ne pas commencer à trouver des excuses. David aurait pu dire, ah, j'ai été fragile là, je suis fatigué. C'est pas ce qu'il fait. Et on peut utiliser Dieu de la même manière. Seigneur, je sais ce que ta parole te dit, mais dans mon cas, je sais quelque part que je dois arrêter cela, mais tout le monde le fait. Je sais que je dois changer, mais autour de moi, dans la société, c'est pas le bon moment, et je suis pas. Voilà, il faut prendre le temps. Et Jésus nous pose quelque part cette question, veux-tu faire ma volonté? Et on arrive du coup au deuxième point, puisque après les paroles, Jésus va parler d'un autre point. C'est la suite du passage. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Ce passage, il est encore plus terrible que celui qu'on vient de lire juste avant. Parce que ces gens-là ne contestent pas de dire Seigneur. Ils apportent des preuves. N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons par ton nom, fait beaucoup de miracles par ton nom? Il faut bien remarquer ici que ce dont ces personnes parlent, en tout cas ce que Jésus dit ici, c'est pas de la magie ou du charlatanisme. C'est fait au nom du Seigneur. Dieu a agi au travers de ces personnes. Des gens qui revendiquent du coup peut-être des fois un ministère chrétien ou un service chrétien avec des résultats visibles, impressionnants, et ça peut être sur toutes sortes de domaines. Bon, ici, là, c'est prophétie, miracle, délivrance, mais puis avoir tellement de choses. Quelque part, on pourrait dire le CV parfait du chrétien. Et la réponse de Jésus, elle tombe comme un couperet, elle vient couper. Je ne vous ai jamais connu. Alors, est-ce que Jésus est contre la prophétie, le fait de chasser les démons, faire des miracles en son nom? Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que Jésus, il dit, ah ben non, c'est chasse gardée, il n'y a que moi qui fais? Est-ce que c'est ça le problème ici? Non, alors du coup, c'est quoi le problème? Bah pas forcément, parce que du coup, ils le font au nom de Dieu. Donc déjà, Dieu agit au travers d'eux. C'est le manque de relations. Alors c'est intéressant ce que tu dis, Diane, parce que c'est la suite. Qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit ici, je ne vous ai jamais connu? Dieu connaît tout le monde, par définition pourtant. Est-ce que du coup, dans ce passage-là, Dieu devient amnésique? Il a atteint une maladie, il oublie du coup, il se dit, j'oublie les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit, quelque part, je ne vous connais pas. Ouais. Dans la Bible, le mot connaître, en fait, décrit une relation intime entre deux personnes. Notamment, c'est le même terme qui est employé dans la relation entre un homme et une femme, un mari et sa femme. Et c'est le même terme que Jésus emploie. Et quelque part, Dieu veut dire ici, nous n'avons jamais eu de relation ensemble. Avoir un don, mes frères et sœurs, servir à l'Église, prêcher, même, je vais vous dire, être pasteur, ça ne veut pas dire que vous êtes chrétien. Ça ne veut pas dire que vous avez une relation avec Dieu. Parce que Jésus peut dire, je ne vous ai jamais connu. Ce que Jésus attend, c'est une relation avec lui. Et on ne pourra pas dire devant Dieu, j'ai fait tout ça. J'ai prêché, j'ai enseigné, j'ai fait de l'évangélisation, j'ai fait de la louange, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et quelle phrase terrible de pouvoir que Dieu nous dise à un moment, je ne vous ai jamais connu. Et Jésus précise pourquoi. Vous qui commettez le mal. Parce que mes frères et sœurs, quelqu'un, un chrétien qui n'a pas de relation avec Dieu, il commet le mal. Il est privé de la vie, de celui qui donne la vie, et il commet le mal. Tu peux être chrétien, baptisé depuis je ne sais pas combien de temps, si ta relation avec Dieu est le point mort, tu commets le mal. Peut-être sans te rendre compte, Mais le mal, c'est quoi? C'est manquer d'amour. Manquer d'amour envers soi-même, envers le prochain, envers tous ceux qui nous entourent. Et celui, du coup, qui se prive de la relation avec celui qui est la source même de l'amour, Dieu, commet le mal. C'est pas simple, ce matin-là. On est tous dans la même barque, ne vous inquiétez pas. Quelque part ici, la vraie question, c'est des gens, quelque part, qui refusaient vraiment de se soumettre à Dieu. Nous, Français, on a du mal, ça. Hein, se soumettre les uns aux autres. Se soumettre à Dieu. Et du coup, Jésus renverse notre façon de penser. Ce n'est pas ce que nous avons fait pour lui qui compte, c'est le fait d'être connu par lui. Comme disait Lydiane, est-ce que Dieu peut me dire de moi que je le connais? C'est toute la question. Ou est-ce que je suis une Maryse, comme dans les évangiles, qui va faire la cuisine, faire plein de choses? Ou est-ce que je suis Marie, qui est au pied de Jésus, qui cherche une relation avec Jésus? Ou est-ce que je suis dans l'activisme chrétien? C'est notre piège, à nous tous. Jésus qui va dire que c'est le fait d'être connu par lui, c'est lui qui dira « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Dans les deux sens. Pensez à Judas, Judas Iscariote. Alors on sait qu'il a mal terminé, mais Judas Iscariote, ça a été quand même un apôtre, un des douze. Et dans Luc au chapitre 9, il est dit explicitement que Jésus va envoyer les douze, y compris du coup Judas, prêcher, guérir des malades, chasser des démons. Il avait l'activité, il avait les résultats chrétiens, pourtant son cœur n'a jamais appartenu à Christ, parce que c'est Jésus qui dira. Quelques temps plus tard de ce même Judas, l'un de vous est un démon. Et pour nous, ça nous fait mal. Parce qu'on se dit, si Dieu m'utilise, c'est que je suis sur le droit chemin. Ça ne veut rien dire. Dieu est capable d'utiliser n'importe qui, y compris le plus grave des pécheurs. Ce n'est pas ce que Dieu fait de toi qui compte, c'est ta relation à lui. Judas, ben finalement, il n'était pas à Dieu. La preuve, c'est qu'il terminera par trahir le maître. Ce n'est pas sa trahison qui cause sa chute. C'est avant, le manque de relation. Je prends un exemple. Est-ce que vous connaissez Kylian Mbappé? Normalement, vous connaissez Kylian Mbappé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? C'est qui déjà? C'est un joueur. Un joueur de quoi? De tennis? Un joueur de foot? Ouais. Archimilliardaire, ouais, je ne sais pas si c'est milliardaire ou millionnaire, mais ouais, il est très riche, effectivement. On peut dire ça. On sait qu'il est né à Bondy, par exemple, en région parisienne, qu'il adore les pâtes à la bolognaise. Alors j'ai cherché un petit peu, hein, je ne connaissais pas par cœur. Il célèbre ses buts, du coup, en croisant les bras, et il court assez vite, c'est un joueur rapide, qui marque beaucoup de buts. Et il joue actuellement au Real de Madrid, et on pourrait faire toute une liste de Kylian Mbappé, si on cherche sur Internet, c'est facile, hein. Et on pourrait en parler pendant des heures. Imaginons. Alors ça c'est improbable, mais imaginons je croise Mbappé dans la rue, et je cours vers lui, je lui dis « Kylian, je te connais par cœur. On est tellement proches. » À votre avis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va me dire « Écoute, t'es bien sympa toi, c'est super que tu saches plein de choses sur moi, mais moi je te connais pas. Toi tu connais des choses sur moi peut-être, mais moi je te connais pas. » On n'a jamais mangé ensemble, on n'a jamais parlé ensemble, on n'a jamais rien fait ensemble. Tu es un fan et c'est tout. Ce matin, est-ce que tu es un fan de Dieu ou est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu connais Dieu ou est-ce que tu es juste un fan? Des fans, il y en a plein. Moi, j'en croise des fans, des gens qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu, mais qui aiment tout ce que Jésus dit, tout ce que Dieu fait. Ce sont des fans. Sauf que, bon, Kylian Mbappé, s'il me dit ça, c'est gentil. Jésus ne dira pas ça à la fin des temps. Il nous dira, je ne vous connais pas, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est beaucoup moins agréable, hein. Mais parce que Jésus, lui, pour nous, contrairement à Kylian Mbappé, il a donné sa vie pour nous. Et du coup, l'attente qu'il a derrière est beaucoup plus énorme. Il attend de nous tout. Ce matin, mes frères et sœurs, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis de Dieu, ce n'est pas ce que tu penses de Dieu, ou ce que même tu fais pour Dieu. Exactement, ce matin, ce que dit Dominique, c'est la relation que tu as avec lui. Une relation qui fait que Dieu puisse dire qu'il te connaît. Et on arrive sur le dernier point, finalement, c'est la parabole. Le message est dur. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, une parabole, Jésus, en tout cas, il met des paraboles pour faire mieux comprendre, faire mieux passer la pilule. la fin de sa conclusion de sa prédication sur le serment sur la montagne est dure, et du coup il emploie cette image de ces deux maisons. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, un homme fou, c'est le terme grec, un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. On a deux hommes ici. Ces deux hommes, ils ont deux maisons. Je vous pose une question, lequel des deux a écouté la prédication de Jésus ? Le sage ou l'insensé ? Non, c'est pas vrai. C'est les deux. Les deux ont entendu les paroles de Jésus. Les deux savent ce que Dieu attend d'eux. Parce que entendre, c'est facile. Écouter, c'est facile. Et le problème de l'homme insensé, c'est pas qu'il a mal compris le message. Hein. Il a très bien compris la preuve. Il a tout bien entendu. Il a même trouvé ça très beau. Parce qu'il a bâti une maison. Peut-être même que sa maison, à lui, elle est plus belle que la maison de celui qui a bâti sur le roc. Parce qu'il a trouvé ce que Jésus a dit, c'est très beau. Moi, je bâtis une maison. Je suis le Seigneur. C'est très beau ce qu'il me raconte Jésus. Moi, j'aime bien. Je bâtis une maison. Mais le seul détail qui a changé toute sa vie, c'est quand la tempête arrive. Quand la tempête arrive, et du coup, c'est finalement qu'est-ce que je fais de ce message, de ce que j'ai entendu. Et du coup, la différence ne se fait pas dans l'écoute, elle se fait dans la mise en pratique. L'un entend et met en pratique, c'est celui qui a bâti la maison sur le roc. L'un entend aussi, mais ne met pas en pratique. C'est le but, tout le but de cette parabole. Jésus, je trouve ça formidable. Il veut dire à la foule, c'est bien que vous ayez entendu, maintenant vous devez vous positionner, parce que moi je vous attends après à la fin. Je vous demanderai des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait ? Jésus aurait pu dire, parce que moi, je n'aime pas parler pour rien, quoi. Donc, vous vous positionnez. Positionnez-vous bien, ne faites pas semblant. Si vous vous m'aimez, allez-y à fond. Si vous ne m'aimez pas, allez-y à fond aussi. Mais au moins, c'est clair. Ne dites pas Seigneur, Seigneur. Jésus attend des actes. C'est beau parce que le premier qui va être sauvé sur la croix, c'est le brigand sur la croix. Il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, mais cet homme, il donne toute sa vie à Dieu. C'est pas compliqué. Et Jésus voit son cœur. Ce matin, mes frères et sœurs, Jésus voit ton cœur. Tu peux donner le change comme le chirurgien coréen, là, américain en Corée. Faire l'impression que tu es chrétien, tu peux, mais Jésus voit notre cœur. Et quand arrive une vraie tempête, ça peut être un décès, une maladie, une trahison, un échec, une difficulté financière, un conflit familial, une tentation, l'épreuve, elle est très large. Ou une période même où Dieu semble silencieux. C'est là que l'on découvre sur qui on a bâti notre vie. Est-ce que notre maison est bâtie sur le roc qui est Jésus, ou est-ce qu'elle est bâtie sur une réussite financière ? Sur mes enfants, sur mon épouse, sur ma famille, sur tellement de Dieu que nous pouvons servir sans nous rendre compte. Mais dans tout cela, parce qu'on peut aussi vivre une vie chrétienne et ne pas traverser de grosses tempêtes. On peut traverser des épreuves, mais on a chacun des épreuves différentes. Mais il y a quand même une épreuve, plutôt une tempête, qu'on traversera tous, chrétiens ou pas. D'ailleurs, c'est cette tempête-là que Jésus parle dans cette parabole. Une deuxième tempête dont parle ce texte, Jésus commence le passage en parlant de ce jour-là. Ce jour-là, quand il dit ce jour-là, c'est le jour du jugement. Le jour du jugement dernier, le jour où Jésus reviendra, ce jour qu'on attend tous, ici-bas. Autrement dit, du coup, la plus grande tempête n'est pas seulement celle que nous traversons ici-bas, c'est le jour où nous retrouverons devant Jésus. Chacun de nous, nous retrouverons devant Jésus, et ce jour-là, les apparences disparaîtront. On ne pourra pas faire semblant. Ce ne sera plus est-ce que les autres pensaient que j'étais chrétien, ils sont plus là les autres, ou est-ce que j'ai agi comme les chrétiens, ce sera est-ce que je connaissais réellement Jésus. Et est-ce que j'ai fait de ces paroles qui donnent la vie, et je sais qu'elles donnent la vie, le fondement de ma vie. Ou est-ce que Jésus dira juste, t'as été un fan, moi je te connais pas. Pour conclure, du coup, Jésus demande quelque part, il nous demande, mes frères et sœurs, ce matin, allez-vous mettre mes paroles en pratique? Peut-être que vous avez déjà la réponse, hein. Peut-être que ce matin, vous savez quelque part un peu où est-ce que vous en êtes. Et si vous l'avez, mes frères et sœurs, je vous le dis, hein, ne cherchez pas immédiatement une autre prédication, un autre verset, ne cherchez pas une excuse pour ne pas obéir. Faites-le. Si le Seigneur te demande de pardonner, pardonne. Ça prendra peut-être du temps, mais rentre dans la démarche de pardon. S'il te dit de te réconcilier, fais le premier pas. S'il dit « aime celui-là qui te fait du mal là, en ce moment, qui parle mal de toi, aime-le là, ton ennemi, commence à aimer cette personne. Avec son aide, mais commence. S'il te dit « arrête de juger » ou « arrête de parler dans le dos des autres », eh bien garde le silence. Tais-toi, ferme ta bouche un petit peu. Dis « je sais ce que le Seigneur attend de moi, Seigneur aide-moi que ma bouche, je vais prêcher il n'y a pas longtemps dessus, mets un frein à ma bouche ». S'il vous dit, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est plus difficile, hein. On peut facilement dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Et du coup, peut-être, essayer d'apprendre à déposer tes fardeaux à la croix. Devant ce Dieu qui est ton Seigneur, concrètement, c'est le mot qu'on emploie. Seigneur, créateur de toutes choses, souverain, qui tient la création tout entière dans ses mains. C'est ce Dieu-là que nous servons. Et peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ce matin, tu fais partie de ce cas, sinon quelqu'un qui te dit peut-être, voilà, moi je ne suis pas sûr d'être sur le roc. Alors écoute bien du coup ce que je vais te dire, le roc du coup ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force mentale, physique, le roc c'est le Christ. Tu n'as pas besoin de devenir assez fort pour mériter Jésus, viens à Jésus, crois en lui, fais-lui confiance, lui fera le travail. Il te donnera aussi après la capacité de commencer à obéir. Parce que c'est ça dont il s'agit ce matin, l'obéissance. Peut-être que tu tomberas des fois, hein, et en tant que chrétien, on tombe, on peut avoir des chutes. Désobéir. Qui ici ne désobéit pas? Moi, j'ai désobéi plein de fois, hein, Seigneur. C'est-à-dire que je suis parfait. Hein. Mais la question ici, c'est pas la désobéissance. C'est de ne plus faire de ta désobéissance un mode de vie. C'est ce dont Jésus parle, pas juste d'une désobéissance classique. Mes frères et sœurs, ce matin, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir fait de la désobéissance un mode de vie. Et Jésus nous montre, nous rappelle, ce matin, il veut nous rappeler à lui. Ce n'est pas ce dont à quoi il nous appelle à vivre. Il nous appelle à vivre une vie de dépendance, dépendance totale à lui. Il veut nous relever, il veut continuer à construire. Et petit à petit, pierre après pierre, obéissance après obéissance. Je veux dire une chose, mes frères et sœurs, et ceux qui ici peut-être connaissent bien le Seigneur et obéissent au Seigneur, je veux dire la même chose, si on obéit au Seigneur, le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Ce matin, c'était un peu une parole là. Il nous bénit. Si on lui obéit, si on fait le pas de foi. Parce que des fois, obéir au Seigneur, pourquoi on ne l'obéit pas? Allez, vous avez des raisons, hein. Je sais pourquoi je n'obéis pas des fois. Pourquoi on n'obéit pas au Seigneur? Ouais, ça nous semble. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne raison. On veut avoir raison. On est tous experts, hein, c'est exactement ça. Et des fois aussi, on est trop attaché à ce qu'on a ou ce qu'on veut faire. Tout simplement. On est des hommes, hein, charnels. Et du coup, on ne veut pas. Et on va se réfugier derrière un Dieu qui est bon, qui est amour, mais oui, Dieu est bon et est amour, mais il n'est pas que ça. Que le Seigneur ne puisse pas dire de nous, non, mes frères et sœurs, je ne te connais pas. Parce que là, on aura tout perdu. Des fois, on se précipite. Ouais, c'est encore une autre raison. L'expérience qui parle, là. T'es pas la seule, Lysiane. Parfois, nous sommes paresseux. Ouais, plein de choses qui, du coup, sont des obstacles. Mais du coup, que chacun de ces obstacles, du coup, nous puissions les franchir. Nous puissions les affronter, être courageux, se positionner. Et obéir à Dieu. C'est la plus belle des choses. Allez, je vous partage une expérience perso, bon, je l'ai déjà dit. Hein. Peut-être pour moi, une des choses les plus difficiles pour moi, c'était d'obéir à Dieu, pourtant c'est spirituel, c'était de me lever pour Dieu. Je trouvais ça beau, hein, des hommes, des femmes qui se lèvent pour Dieu. Et quand Dieu m'a demandé à moi de me lever, ah, mais j'ai dit non. J'avais mon travail, j'étais bien payé. Et pourquoi j'ai pas voulu? Parce que j'étais bien payé. Et avec tout ce qui va avec, c'est pas que l'argent, tout ce qui va avec. Je me suis dit, moi, quand je rentre chez moi, c'est fini, il n'y a pas il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de relation à gérer, il n'y a pas tout ça. Et j'ai pas obéi pendant 2 ans. Et le matin, je venais, Seigneur, je te donne tout, Seigneur. Au début, je vivais ça plutôt bien. Et à un moment, ça commence, le Saint-Esprit commence à travailler. Ah ouais, tu chantes ça, toi? Bah dis donc, tu te donnes tout. Et puis à un moment, le Seigneur, il a tellement travaillé en moi que j'étais pas bien. Venir à l'église, c'était lourd. Parce que je savais que j'étais pas dans ce que Dieu voulait. Et j'ai fait le pas d'obéir. Je me suis dit, je vais obéir, le Seigneur va pourvoir au besoin vous parler. J'ai posé ma démission. Quand on pose sa démission en France, on ne touche rien. Ni chômage, ni rien du tout. Mon père m'a appelé. Chrétien, hein. Je pensais qu'il allait me dire, félicitations. Il m'a dit, écoute, si Dieu t'a demandé ça, c'est très bien. Du coup, tu te débrouilles avec lui. Moi, je ne te paye rien du tout. Tu vois avec ton Dieu. C'est ton Dieu, non? Bah, vois avec lui. Mon père, voilà, il avait besoin de temps. Il était choqué que son fils, voilà, c'est pareil, hein. Tous contents que Dieu, aux gens, ils servent les yeux du Seigneur, mais dès que ça se lève, c'est compliqué. Et j'ai été tout seul face à mon choix. Je me rappelle, je suis descendu, j'étais au bureau de la Défense. J'avais vu deux assistantes sociales qui m'avaient vu parce qu'ils pensaient que j'avais des problèmes personnels, sentimentaux ou autres. Pris pour un fou, en fait, hein. Je suis descendu en bas. J'avais plus de travail, plus rien. Tout ce pourquoi j'ai fait mes études, j'avais plus rien. Et je m'étais grillé dans le secteur, en plus, hein. Secteur énergétique en France, il est petit. Et au fond de moi, à ce moment-là, j'ai perçu quelque chose, hein. J'ai reçu par contre une paix profonde. Une vraie paix. Je ne savais pas où j'allais, j'avais même pas de logement en ce moment-là, hein. J'avais tout lâché. Mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Alors ça a été long, ça a été des fois fastidieux, mais Dieu était là. Et c'est peut-être les années où j'ai encore plus vu la main de Dieu dans ma vie. Et ça a commencé comment? Par une obéissance. Mes frères et sœurs, si nous et je ne suis pas le seul, hein, plein d'autres pourront vous dire là, que ça commence par l'obéissance. Est-ce que je suis le maître? Jésus a aussi obéi au Père. C'est pour cela qu'il est descendu ici-bas sur cette terre, pas parce qu'il le voulait, mais par obéissance et par amour complet pour nous. Ce Seigneur qui nous demande ici finalement la même chose. Jésus ne nous demande pas du coup simplement est-ce que vous m'avez entendu, mais mettez mes paroles en pratique. Mes frères et sœurs, ne repartons pas d'ici simplement en disant c'était un bon message. Repartons avec une décision, une parole de Jésus que je vais mettre en pratique, parce qu'au bout du compte, il y a deux manières d'écouter Jésus. L'écouter ou l'écouter et lui obéir. Être cet homme sage que le Seigneur nous donne d'être ceux qui lui obéissent. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin, qui n'est pas simple. Parole, mon Dieu, qui travaille dans nos cœurs, mon Dieu, cette conclusion du sermon sur la montagne, qui est un avertissement pour nous, Jésus, et nous voulons prendre cet avertissement, mon Dieu, comme un cadeau. Comme cette parole qui vient être un miroir dans nos vies. Mon Dieu, je te prie de venir nous aider. Tu vois, mon Dieu, nous l'avons cité avec mes frères et sœurs, tant de raisons qui nous empêchent de t'obéir. Que ce soit la paresse, la précipitation, l'envie, le confort personnel. Tellement de choses qui ne pouvons nous faire passer à côté. Et mon Dieu, que tu ne puisses pas dire de nous, quand tu reviendras, je ne te connais pas. Mon Dieu, nous voulons être de ceux qui vivons ce que nous disons. Et viens, Saint-Esprit, nous aider à mettre en pratique ce que nous connaissons de toi, ce que nous avons entendu de toi. Viens briser peut-être notre orgueil, notre ego, tout ce qui nous empêcherait. Que toi, Saint-Esprit, tu travailles dans nos cœurs, tout ce qui nous empêcherait de t'obéir. Viens, Jésus, encore nous montrer combien ton amour, mon Dieu, si profond que tu as donné ta vie pour nous. Et tu attends de nous en retour, Jésus, un don total. Merci, mon Dieu, parce que tu es ce Dieu qui, dans ce don total, ne nous laisse pas sans rien et qui nous bénit abondamment. Aide-nous, mon Dieu, à te faire confiance. Pleinement confiance que par l'intellect, mais en réalité, dans le concret de nos vies. Fais-nous grâce, Père. Ce matin, je veux vraiment te prier. Viens faire grâce, mon Dieu, à chacun de mes frères ici-bas. Tu connais ici les cœurs de chacun. Tu connais, mon Dieu, ceux qui te suivent. Tu connais ceux qui t'obéissent, ceux qui t'écoutent seulement. Et ce matin, mon Dieu, ta grâce, elle coule encore. Et que cette grâce, mon Dieu, elle puisse venir vraiment tous venir nous chercher. Pour que tu puisses dire à la fin, je vous connais. Je te connais, ma brebis. Amen.